frère Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ, 5 décembre 86, Rimont.
L'autre, parce que là ce serait terrible. Vous seriez d'un côté la bout d'un certain temps, on dégringole, par, pas à cause de la miséricorde. Hein, il faut tout le temps remonter à la source, parce que la miséricorde est plus exigeante que la justice. Le regard sur la personne humaine et la responsabilité à l'égard de la personne humaine est plus exigeant que l'application de la loi. Parce que quand on regarde la personne, il faut toujours remonter à la source. Tandis que quand on regarde les actes, il ne faut pas remonter à la source. Ce sont des faits. Mais l'aspect juridique regarde les faits. Et l'aspect miséricordieux regarde la source de ces faits, la personne. Alors, nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas, ce passage si important et si beau, où on comprend un peu comment Jésus, nouveau législateur, comme grand prêtre, ne vient pas supprimer la loi, mais la dépasse. Et donc Jésus n'accepte miséricorde-justice. Et c'est pour ça qu'il est dit que la justice et la miséricorde se sont embrassées. Et que toute la tradition l'a vu comme le mystère de la croix, réalisant cela. Mais les hommes cherchent toujours à vous classer de droite ou de gauche. Je ne dis pas que la gauche c'est la miséricorde et la droite la justice. Mais la justice c'est l'ordre. La miséricorde, c'est la fragilité de la personne humaine. Et on fait miséricorde pour que la personne humaine, malgré sa fragilité, puisse atteindre son bonheur, sa béatitude. La miséricorde est ordonnée à la béatitude. La justice n'est pas ordonnée immédiatement à la béatitude. Elle est pour maintenir l'ordre. Elle est avant tout, si vous voulez, au niveau communautaire. Sa fête, elle est communautaire, la justice. Quand j'ai affaire uniquement à un individu qui est seul et solitaire et un ermite, je ne pose pas beaucoup la question de l'ordre. Je regarde avant tout la personne et sa capacité de contempler, d'atteindre sa béatitude. Tandis que quand j'ai affaire à quelqu'un qui est engagé dans une communauté, la question de l'ordre et la question de la justice reprennent une très grande importance. On peut faire miséricorde à une personne seule, mais à une personne qui a des responsabilités. Les responsabilités communautaires, c'est très différent. Parce qu'on doit respecter la responsabilité à l'égard de la communauté. Alors là, on tombe du point de vue de la justice. Et ce dilemme constant entre justice et miséricorde, c'est très important. Ce serait très beau, du reste, de creuser cela. De voir tout ce qui touche immédiatement la miséricorde, tout ce qui touche immédiatement la justice. Je crois que la justice, c'est l'ordre avant tout dans la communauté. C'est aussi la justice par rapport à la personne, c'est bien évident, c'est pas exclusif. Mais c'est avant tout ça. Vous avez un sens de la justice dès que vous avez des responsabilités dans l'ordre communautaire. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des responsabilités pour augmenter le sens de la justice. Tandis que la miséricorde, c'est lorsque vous êtes en présence d'un être qui n'en peut plus. Situation limite, au-delà de la communauté. Un peu le rejet, les gens qui rejettent. La miséricorde, c'est toujours à l'égard des gens qui sont rejetés. À les gens qui sont en dehors de l'aspect communauté. Alors à ce moment-là, on sent très bien que la justice ne porte plus. Parce que vous êtes devant un cas extrême, où seule la miséricorde peut atteindre. La miséricorde va plus loin que la justice. C'est pour ça que je dis qu'elle atteint directement la personne humaine. Et elle atteint les fondements de toute communauté. Tandis que la justice, elle, regarde ce qui structure une communauté. Alors il faut comprendre qu'une communauté humaine est fondée sur la justice et non pas sur la miséricorde. C'était le désir de l'abbé Pierre de faire que une communauté humaine soit fondée sur la miséricorde. J'ai entendu de mes propres oreilles hier sous cette jeune. Alors on a envie de lui dire, mais non, non, une communauté humaine ne peut pas être fondée sur la miséricorde. Il n'y a que l'Église. C'est le corps mystique. Et c'est pour ça que c'est plus une famille qu'un peuple, qu'une communauté civile. La famille est fondée sur la miséricorde. Et quand on introduit la justice dans une famille, ça ne va plus du tout. Introduit au moment des héritages. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, tout se brise. Parce qu'on a introduit la justice dans la famille. Et introduire la justice dans la famille, ça brise. Et l'Église, c'est cette famille dans laquelle Jésus fait la miséricorde. Vous voyez, cette femme, prise au flagrant délit d'adultère, elle demande d'être rayée de la communauté religieuse.
Toujours les deux. On ne peut jamais exclure.
dire ne pêche plus. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu te corriges. Ça, la correction, c'est la justice. Mais va, ne pêche plus. Moi non plus, je te pardonne. Je ne te condamne pas. Ça, c'est la miséricorde. La miséricorde, donc, c'est ce qui caractérise. La miséricorde enveloppant la justice, transformant la justice, c'est ce qui caractérise le sacerdoce du Fils bien-aimé. Puisque la miséricorde, c'est l'acte de l'amour dans son sommet. Pardonner, ne pas condamner. Ensuite, nous avons donc ce grand discours, le perroquet discours polémique de Jésus, rupture avec le judaïsme. Je crois qu'il faut le considérer comme, dans l'ordre de la lutte, le sommet. Alors, le sacerdoce du Christ donne à Jésus une force d'être témoin de la vérité. Jésus le déclare à Pilate, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. » Et ça fait partie essentielle du sacerdoce du Christ. Tout homme est tenu à la recherche de la vérité. Et je dirais, le sacerdoce du Christ, mais pour chacun d'entre nous, de la vérité. On ne peut pas être chrétien sans être témoin de la vérité. Refuser le témoignage de la vérité, c'est abdiquer son christianisme. Et je dis bien témoin, pas seulement rechercher la vérité, mais témoin de la vérité. C'est-à-dire témoigner qu'on cherche la vérité et quelquefois opter. Parce que pour être témoin, il faut opter. On n'est pas spectateur. On est témoin, donc il faut opter, il faut montrer que c'est là la vérité. Dans un monde où, justement, où il n'y a plus beaucoup de recherche de la vérité, dans un monde où, constamment, le mensonge domine, je crois que c'est encore beaucoup plus important de comprendre que le chrétien est un témoin de la vérité. Et le prêtre du sacerdoce ministériel, ça devient pour lui une exigence. Je crois que accepter le sacerdoce du Christ au point de vue ministériel, c'est accepter d'être témoin de la vérité jusqu'au martyr. Donc on n'a pas le droit d'accepter le sacerdoce. Évidemment, sachant très bien que seule la grâce de Dieu peut nous permettre d'être fidèles jusqu'au bout. Mais il me semble qu'on peut le dire, puisque Jésus a terminé sa vie par le grand martyr de la croix. Et donc, il y a un lien entre les deux. Ce qui exige une très grande force pour être témoin de la vérité. Et la toute-puissance au service de l'amour, la force au service de l'amour, au service de la vérité. Alors je vous relis ce passage pour essayer de découvrir justement ici comment le sacerdoce du Christ est lié à ce témoignage de la vérité. Parce que je crois que c'est peut-être le lieu par excellence. Jésus leur parla en disant « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, mystère de lumière lié directement au sacerdoce du Christ. Et la lumière, c'est la manifestation de la vérité. La lumière intérieure, c'est la manifestation de la vérité. Celui qui ne sujet, vrai est mon témoignage, parce que je sais d'où je suis venu et où je m'en vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je m'en vais. Vous, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Voyez comment Jésus montre que son témoignage est authentique, que son témoignage est vrai. Mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je suis venu, je crois. C'est donc l'aspect de l'origine et l'aspect de la finalité qui permet à Jésus de dire que son témoignage est vrai. Alors on comprend très bien pour lui, comprendre que l'origine vient de Dieu et que le retour vient de Dieu. Et pour nous, c'est la même chose. Quand nous rendons témoignage de la vérité, nous disons, cette vérité n'est pas de nous. Nous l'avons reçue et nous savons qu'elle nous ordonne vers notre fin propre. Donc, être témoin de la vérité, c'est de pouvoir justifier notre mission et connaître la signification de cette mission. La connaissance d'où on vient et où on va. Et par là, de ne plus juger selon la chair. Et Jésus de nouveau, et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement à moi est véridique. Parce que je ne suis pas seul, mais il y a moi et celui qui m'a envoyé. Voyez là, nous touchons le mystère du témoignage. On pourrait dire la même chose que ce qu'on disait ce matin à propos du miracle. Parce que si vous lisez ça d'une façon extérieure, vous ne comprenez pas. Façon juridique, parce que le Père il n'est pas visible. Alors, quand Jésus dit qu'il ne parle pas en son propre nom et qu'il parle aussi de la part du Père, ceux à qui il s'adresse ne voient pas le Père, ils ne voient que Jésus. S'il m'arrive de juger moi, mon jugement à moi est véridique. Parce que je ne suis pas seul, mais apparemment il est seul. Il y a moi et celui qui m'a envoyé. Et dans votre loi à vous, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. C'est moi qui témoigne à mon propre sujet. Et il témoigne à mon sujet, le Père qui m'a envoyé. C'est net et c'est très grand ça. Ce que représente le témoignage de la vérité du sacerdoce du Christ. Pour nous, c'est très important de comprendre ça. C'est même capital. Si le prêtre doit être témoin de la vérité, si le chrétien doit être témoin de la vérité, il faut qu'il sache comment il doit être témoin de la vérité. C'est partie essentielle de notre vie. Jésus montre que son témoignage est vrai parce que celui qui l'a envoyé est présent. Nous sommes témoins de la vérité en tant qu'envoyé. Pas lorsque nous parlons notre nom propre, pas lorsque nous sommes d'accord avec notre voisin en disant, voilà, c'est vrai, voyez, il est d'accord avec moi. Petit copain, vous savez. C'est vrai, c'est l'attitude aujourd'hui, il faut bien le voir. Nous sommes plusieurs à affirmer la même chose, donc c'est vrai, vous vous êtes seul à le dire. Mais si vous êtes seul à le dire, donc nous sommes plusieurs. Voyez, on ramène le témoignage divin à un témoignage humain. Or, il s'agit d'un témoignage divin ici, qui fait partie du mystère. Le témoignage n'est pas d'ordre apologétique, il est d'ordre divin. Et on le ramène constamment à un point de vue apologétique. sommes dans la vérité et que notre témoignage porte, et non pas du tout parce que de fait, on est en harmonie avec ce que tout le monde dit. Quand ce sont des aveugles qui conduisent ces aveugles, ils sont tous d'accord. Mais il reste des aveugles. Et donc leur témoignage n'a aucune force. Il n'y a plus de témoignage. Et je crois que c'est très important ça, parce que et ça touche le sacerdoce du Christ. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, bien c'est ça que c'est, qui est impliqué. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement à moi est véridique parce que je ne suis pas seul, mais il y a moi et celui qui m'a envoyé. Nous pouvons toujours dire ça. Si nous comprenons que le témoignage que nous devons donner est un témoignage divin, c'est un mystère. On ne vous demande pas, voyez, que votre témoignage soit apologétique. Ça s'est ajouté. On vous demande d'être un témoignage vrai, c'est-à-dire conforme à celui qui vous envoie, conforme à celui qui vous a envoyé. Et dans votre loi à vous, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Mais c'est juste l'inverse de celui qui essaie d'être original, d'être prophète. C'est juste l'inverse. Parce que celui qui est prophète, il agit. Au nom de l'Esprit Saint, mais au fond, il agit son propre nom. Puisque l'esprit de prophétie, c'est d'être témoin de Jésus, comme il dit dans l'Apocalypse.
Je n'ai qu'une année de philosophie. Donc quand on commence la théologie, on devient témoin.
La théologie nous engage, voyez, et toute notre vie, hein. Le témoignage de la vérité, porter l'habit, c'est un témoignage de vérité. C'est manifesté que de fait, on appartient au Christ. Et qu'on est du Christ. C'est un témoignage. C'est pour ça que le Saint-Père le veut. Et le rappelle, parce que c'est essentiel au sacerdoce du Christ, sacerdoce royal des fidèles et sacerdoce ministériel. Je peux pas. Alors ça, c'est quand même très important de comprendre ce témoignage. Alors est-ce que ce témoignage est lié à la médiation du Verbe, spécialement? C'est le Verbe qui s'est incarné, et le sacerdoce du Christ est lié au Verbe. Donc il est lié à la vérité, il est lié à la lumière. Immédiatement et explicitement. Donc premièrement, vous voyez, c'est exigeant de témoigner de la vérité. Et de savoir que notre témoignage repose sur notre mission. On est envoyé. Ça repose là-dessus, parce qu'autrement vous êtes seul. Tandis que ça repose sur votre mission. Et vous pouvez le dire, comme Jésus l'a dit. Alors faites l'analogie de tout à l'heure à propos du signe. Normalement, et on voit très bien le raisonnement, normalement un témoin, c'est quelqu'un qu'on peut voir. C'est quelqu'un qu'on peut voir, qu'on peut entendre et qui est là pour vous dire, j'étais témoin, je vous affirme. Donc ça c'est le témoin. C'est le témoin au niveau humain, au niveau juridique. Il s'agit d'un témoignage divin. Et ce témoignage divin implique l'invisible. C'est vrai, parce que quand vous lisez ça un petit peu de l'extérieur, vous dites, mais quoi, Jésus commet une injustice folle vis-à-vis du peuple d'Israël. La loi dit deux témoins. La loi ne dit pas être envoyé par le Père. Non, non, elle dit deux témoins. Et Jésus a l'air de vraiment en face de tous ces croyants qui tiennent à la loi. Il a l'air de dépasser tout ça de façon invraisemblable. C'est vrai, il y a une espèce d'analogie du témoin, vous voyez, comme pour le signe. Il y a quelque chose qui dépasse et qui est propre à la foi chrétienne. Ça, je crois, c'est propre à la foi chrétienne. Parce que c'est le témoignage envoyé par le Père. C'est un témoignage sacerdotal du Fils bien-aimé. Et ça, c'est propre au Père. C'est propre, hein, à l'Évangile. C'est pour ça que c'est si important. Puisqu'on passe vite là-dessus. Moi, j'avoue qu'au début, je ne comprenais pas du tout. Et c'est par là que je l'ai compris, par le point de vue du témoignage. Et un témoignage divin par rapport à l'envoyé. Vous voyez, qui exige un acte de foi, c'est évident. Qui exige un acte de foi? Parce que le témoignage fait partie du mystère du sacerdoce du Christ, donc ça exige un acte de foi. Il leur dit donc de nouveau, moi, je m'en vais, et vous me chercherez, et dans votre péché, vous mourrez. Le sacerdoce du Christ réclame avec il leur disait « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Mais si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jésus les secoue pour enlever leur conformisme ou leur sécurité et leur montre l'importance de ce discernement actuel. Qu'après il sera trop tard. Voyez, ça c'est propre. J'allais dire d'un discernement de Jésus par rapport à ceux qui sont proches de lui et qu'il aime et qu'il veut attirer vers lui. Mais il sait que c'est non pas une menace, mais c'est en montrant l'importance actuelle devant lequel il se trouve. Il pourra peut-être les atteindre, les toucher, les ébranler. Ils lui dirent donc, « Qui es-tu ?» Jésus leur dit, « Absolument ce que je vous dis. J'ai sur vous à juger. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et moi, c'est ce que j'ai entendu de lui que je dis au monde. Ils ne connurent pas qu'il leur parlait du Père. » Voyez cette discussion donc. Je crois qu'il faut le comprendre. Nouvelle qui recevra Jésus, la foi chrétienne. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi je suis, et que de moi-même je ne fais rien, mais ce que m'a enseigné le Père, c'est cela que je dis. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui plaît. Et de nouveau, ce témoignage profond de Jésus, de son unité avec celui qui l'a envoyé, et la force de ce qu'il dit, provenant justement de cette unité avec celui qui l'envoie. Le point de vue de l'amour et le point de vue de la vérité. personne, nous n'avons jamais été esclaves. Comment toi peux-tu dire, vous deviendrez libre? On voit très bien la sensibilité religieuse extrême devant Jésus. Il s'agit d'un choix. Il s'agit de les amener à adhérer à quelque chose de nouveau, à la retombée, toujours vers Abraham, comme s'il ne pouvait rien y avoir de plus. Nous sommes la descendance d'Abraham, et de personne nous n'avons jamais été esclaves, et Jésus veut les libérer. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est l'esclave ne demeure pas dans la maison à jamais. Le Fils demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, et vous cherchez à me tuer, parce que ma parole à moi n'a pas d'accès en vous. Ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, je le dis. Et vous donc, ce que vous avez entendu de votre Père, vous le faites. Ils répondirent et lui dirent, notre père est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais moi, mais non. Vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites, vous, les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous n'avons qu'un père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que j'arrive. Pas de moi-même que je suis venu, mais celui-là m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage à moi? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole à moi. Vous avez, vous, le diable pour père, et ce sont les convoitises de votre père que vous voulez accomplir. Celui-là était homicide dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Quand il dit le mensonge, il le dit de son propre fou, car il est menteur et père du mensonge. Mais moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me confondra à propos de péché? Si je dis la vérité, pourquoi donc ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Voilà pourquoi vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je crois que c'est les paroles les plus fortes au point de vue du discernement que Jésus n'ait jamais dites en face de son peuple. Ces paroles dures. le démon cherche à être père, c'est-à-dire de nous mettre dans son sillage, et que la lutte est vraiment au niveau de la paternité du Christ et la paternité du démon. C'est très très fort ça, comme si toute la vie chrétienne se ramenait à la paternité, hein. Ce qui est vrai fondamentalement et ultimement. Tout se ramène à la paternité. C'est le Père qui est premier et qui est ultime, qui est dernier. Et alors, la paternité prend avec Jésus une nouvelle signification. Quelque chose de tout autre. Et c'est cela qu'il veut leur faire comprendre, que c'est déjà présent dans l'ancienne alliance.
Vérité qui libère, il n'y en a pas d'autre. Et cette vérité va juste.
Donc c'est la grande révélation de la transcendance absolue. Donc c'est effectivement de la vérité. C'est pour ça que c'est dur et que l'aspect est si fort. Alors voyez, les deux sont liés, à la fois la paternité et la transcendance. La paternité, c'est quelque chose de très proche, puisque c'est la procession éternelle du Verbe, et c'est une paternité qui s'étend jusqu'à nous par la communication de la grâce. Et en même temps, cette paternité nous met en présence de la transcendance absolue de Jésus qui affirme « Je suis ». Je crois que c'est cela qu'on doit saisir, parce que on pourra y revenir du reste à cette question. Que le sacerdoce du Christ réclame le témoignage de la vérité. Et que ce témoignage de la vérité fait que le prêtre qui enseigne n'a pas le droit de cacher la vérité. Entre ce qui vient de Dieu, ce qui est né de Dieu.